Le journal Loïc Barrière. C'était la surprise de ce mardi au Qatar. L'Arabie Saoudite a remporté son premier match du mondial face à l'équipe d'Argentine. Dans l'après-midi, la Tunisie a affronté le Danemark. Un match qui s'est achevé sur un score de 0-0. Le 79e anniversaire de l'indépendance du Liban, entretien avec l'ambassadeur du Liban en France, Rami Adouane. Plus de 70 personnes tuées dans la répression des manifestations en une semaine en Iran. Le président Erdogan affirme que l'opération terrestre des forces turques aura lieu bientôt si Dieu le veut. En Grèce, plus de 400 migrants secourus au large de la Crète. Invité aujourd'hui de Pluriel, Yann Brossa appelle le gouvernement à réquisitionner des bâtiments vides pour loger les sans-abri cet hiver. La nouvelle campagne des Restos du Cœur, l'association fondée par Coluche, alerte sur la précarité alimentaire qui s'est aggravée cette année. Enfin, le Téléthon revient les 2 et 3 décembre. Entretien avec Laurence Thiénot-Herman, présidente de l'AMF Téléthon. Au mondial de football, l'Arabie Saoudite a réussi l'exploit de balayer l'Argentine de Lionel Messi, invaincu pourtant depuis 36 matchs. Le match a été remporté 2-1 par les Saoudiens, 2 buts marqués par les attaquants Saleh El-Sheri et Salem El-Daoussari. Il s'agit d'une des plus grosses surprises de l'histoire de la Coupe du Monde. Une atmosphère de fête était visible dans le stade de Lusail au Qatar, où de nombreux supporters saoudiens étaient venus en voisin. En attendant la rencontre France-Australie, les Tunisiens ont affronté mardi après-midi le Danemark, un match qui s'est achevé par le score de 0-0. Le Liban a rendu hommage au père de l'indépendance. C'est le 22 novembre 1943 que le pays du Cèdre a accédé à son indépendance. Le Liban, qui est sans président de la République depuis le 31 octobre. À l'occasion de cette fête, Radio Orient a joint l'ambassadeur du Liban en France, Rami Adouane.
À l'occasion du 79e anniversaire de l'indépendance du Liban, je présente à l'ensemble des Libanaises et des Libanais mes meilleurs vœux de réussite, de succès et de prospérité. À cette occasion, la diplomatie libanaise affirme qu'elle poursuivra son œuvre et son action pour la protection du pays, la protection des droits des Libanais et des Libanaises, ainsi que de leur liberté. Mais il nous est indispensable de rappeler à cette occasion que l'indépendance ne se limite pas à une célébration ou à une journée. L'indépendance est une œuvre collective, est un effort inclusif de tous les jours qui exige que l'on mette de côté les difficultés et les crises internationales pour nous concentrer à dépasser les obstacles qui entravent l'accession pleine à notre indépendance. Ces obstacles sont souvent de nature interne. Ils sont représentés par une corruption endémique devenue systémique. Ils sont représentés également par le manque d'instabilité de nos institutions constitutionnelles. Ils sont aussi le fait de l'absence de responsabilité, de l'absence de comptabilité, et aussi la conséquence d'une paupérisation rapide et massive de notre population. À cette occasion, l'appel est à enjoindre à tous de nous mettre ensemble autour d'un seul projet, un projet collectif et inclusif qui puisse nous emmener vers de nouveaux ports où l'indépendance du Liban aura toute sa signification. Et à cette occasion, comme chaque année, on ne peut dire aux Libanaises et aux Libanais que quelques mots. Yenhad alaykoum.
L'ambassadeur du Liban en France, Rami Adouane, au micro de Roger Rouri. Le Liban, qui est confronté à la plus grave crise économique et sociale de son histoire, aussi le programme alimentaire mondial de l'ONU a-t-il décidé d'accorder 5,4 milliards de dollars au Liban, une somme qui doit permettre de venir en aide à la population libanaise et aux réfugiés syriens. En Iran, la justice annonce l'arrestation de 40 étrangers ces deux derniers mois. Ils sont accusés d'être impliqués dans les manifestations qualifiées d'émeutes par les autorités. Selon une ONG, plus de 70 personnes ont été tuées dans la répression de ces manifestations en une semaine. Le Kremlin demande à la Turquie de ne pas déstabiliser la situation dans le nord de la Syrie. Cet appel intervient alors que les forces turques ont mené plusieurs raids aériens contre des combattants kurdes accusés d'être responsables de l'attentat d'Istanbul. Ce mardi, un drone turc a bombardé une base conjointe des forces kurdes et de la coalition internationale anti-djihadiste menée par les États-Unis. Bilan, 2 morts parmi les combattants kurdes. Ce mardi, le président Erdogan a déclaré, je cite, que l'opération terrestre de l'armée turque en Syrie commencera bientôt, si Dieu le veut. Ce drame de la route au Maroc, un accident d'autocar a fait au moins 11 morts et 43 blessés. Cela s'est passé près de la ville de Taza, dans le nord-est du royaume. En France, la 38e campagne de distribution alimentaire des Restos du Cœur, lancée ce mardi. À cette occasion, le président de l'association, Patrice Douré, met en garde sur l'aggravation de la précarité alimentaire en France. Il alerte aussi sur les difficultés de trésorerie rencontrées par l'association fondée par Coluche. Les Restos du Cœur achètent 35% de leurs produits alimentaires, or les prix ont explosé de 15 à 20%. De plus, il y a 12% d'inscrits supplémentaires cette année, notamment 110 000 bébés, soit une hausse de 25% d'enfants entre 0 et 3 ans. Invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h, l'adjoint à la maire de Paris en charge du logement, Yann Brossa, demande au gouvernement de créer des places d'hébergement supplémentaires pour les sans-abri. On l'écoute.
Oui, l'hébergement d'urgence, c'est effectivement une prérogative de l'État. Ce qu'on constate, c'est que à Paris, il y a environ 4 à 5 000 personnes qui, tous les soirs, dorment dehors. Et parmi elles, des familles, des femmes, parfois des femmes enceintes, des enfants. Et donc, on aurait besoin d'une augmentation très sensible du nombre de places d'hébergement. Je dis à Paris, mais pas qu'à Paris, en Ile-de-France de manière générale, et notamment dans un certain nombre de départements, je pense au 92, qui sont très peu dotés en places d'hébergement. Heureusement que le gouvernement a renoncé à son choix initial de supprimer 6 000 places d'hébergement, mais enfin, aujourd'hui, on en manque. Et donc, il y aurait besoin d'en créer, et d'en créer, je pense aussi, dans un certain nombre de bâtiments qui sont vides. Et je souhaite que, c'est une demande que je fais au ministre, l'État puisse réquisitionner un certain nombre de bâtiments qui sont aujourd'hui vacants. On ne peut pas avoir d'un côté des gens qui dorment dehors, et de l'autre, des bâtiments qui restent désespérément vides.
À qui appartiennent ces bâtiments vides ?
Ce sont des bâtiments privés, mais précisément, la loi aujourd'hui permet à l'État de les réquisitionner. Or, ce que je constate, c'est que l'État ne fait pas usage de ce droit de réquisition. C'est une compétence qui relève du préfet, donc des services de l'État. Et donc, c'est une demande que je fais au ministre. Le ministre a d'ailleurs dit qu'il n'y était pas défavorable. J'ai une liste de bâtiments à lui soumettre. Et je souhaite que cet hiver, des bâtiments privés puissent être réquisitionnés pour héberger des gens qui actuellement sont dehors.
Yann Brossa, maire adjoint de Paris, en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés, également porte-parole du Parti communiste français. Il est l'invité de Pluriel ce mardi à 19h et 23h. En Grèce, 430 personnes à bord d'un bateau de pêche sont arrivées dans le port de Paléochora, dans le sud-ouest de la Crète. Le bateau qui transportait ces migrants avait lancé un signal de détresse intercepté par les gardes-côtes grecs. Enfin, un week-end consacré au Téléthon, à la télévision, ce sera les 2 et 3 décembre prochains. Objectif, recueillir un maximum de dons pour soutenir la recherche en faveur des maladies rares. Entretien avec Laurence Thiénot-Hermand, présidente de l'AMF Téléthon.
Bien sûr, les dons sont plus qu'utiles, sont indispensables et nous ont permis et nous permettent aujourd'hui d'avoir de vraies victoires thérapeutiques. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, les laboratoires du Téléthon, les chercheurs financés par le Téléthon sont à l'origine de médicaments, notamment de médicaments de thérapie génique, donc thérapie très très innovante, médecine nouvelle qui aujourd'hui fait ses preuves, notamment et dans les familles qui témoigneront au moment du Téléthon, on a sur une de ces affiches une petite Lucie concernée par une maladie rare, la myotrophie spinale de type 1, Lucie qui hier était condamnée et qui aujourd'hui vit, qui aujourd'hui va bien. Il y a plus de 2000 enfants dans le monde qui ont été traités et qui sont sauvés grâce à ces traitements de thérapie génique qui sont nés dans les laboratoires du Téléthon. Donc, fierté, émotion et des moments formidables et des victoires à partager avec tous ceux qui ont contribué.
Vous parlez d'enfants sauvés. Concrètement, de plus en plus d'enfants atteints de maladies rares ont une plus grande espérance de vie ou bien peuvent être totalement soignés?
Alors, quand je parle de thérapie génique, c'est une thérapie très innovante, donc c'est un vecteur médicament qui va réparer la cellule malade, et ce que l'on espère, c'est que en effet, ça va durer sur le temps, parce que la thérapie génique, c'est un traitement en une fois, une administration unique, et qui est là pour attaquer le mal à sa racine, si j'ose dire, c'est-à-dire faire en sorte que ce gène défaillant puisse ne plus l'être et soit compensé par un gène médicament. Et on espère, en effet, alors le recul que nous avons sur les traitements de thérapie génique, ça date des années 2000, les bébés bulles. Donc le professeur Alain Fischer, qui était pionnier de la thérapie génique avec ses premiers traitements dans le cadre d'essais cliniques, et il faut savoir que aujourd'hui ces premiers bébés atteints de déficit immunitaire à l'époque, qui ont été traités dans les années 2000, avec le recul que l'on a, vont toujours très bien. Donc on espère, en effet, pour toutes les nouvelles victoires, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a plus d'une vingtaine de médicaments de thérapie génique qui sont mis à disposition des patients de par le monde, bien évidemment, et on espère que cette nouvelle médecine va continuer de faire la démonstration de son efficacité sur le long, voire le très long terme.
Vous nous parlez des progrès qui ont eu lieu à travers le monde. Les dons réalisés en France servent à tous les enfants à travers le monde, notamment, par exemple, au sud de la Méditerranée.
Évidemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la recherche, il faut savoir, vraiment quelque chose qui est très international. Il n'existe pas une équipe qui travaille sur telle ou telle problématique ou telle maladie qui ne connaisse pas les autres équipes qui travaillent, qui sont soit en compétition, soit avec lesquelles elles vont collaborer. Donc la science est internationale. Donc ça veut dire aussi que les avancées de la science, c'est international et que l'accès au traitement, alors dans le cadre des essais cliniques, là aussi, ça se veut international, surtout dans le domaine des maladies rares. Il est clair qu'on ne peut pas penser seulement à l'échelle d'un pays pour les maladies rares. Le recrutement des patients ne peut se concevoir que à l'échelle internationale. Et ensuite, il y a les essais et ensuite, il y a l'accès aux médicaments qui là est soumis aux réglementations pays par pays. Ça, c'est clair qu'ensuite, l'accès aux médicaments, c'est pays par pays en fonction de la réglementation en vigueur. Mais sinon, la recherche, les essais et surtout dans les maladies rares, on est forcément dans une logique internationale.
On a été confronté à la crise sanitaire avec le Covid. Les Français aujourd'hui sont confrontés à une baisse de leur pouvoir d'achat liée notamment à l'inflation des prix de l'énergie. Vous espérez tout de même qu'ils sauront se montrer généreux lors de ce Téléthon?
Le Téléthon a 35 ans tout juste cette année. Le prochain Téléthon, c'est le 36e. Alors, des crises, autant vous dire qu'au cours de ces 35 années, on en a connu dans des domaines très différents les uns des autres. En effet, la crise sanitaire qu'on a traversée pendant 2 ans, qui vous en doutez bien, comme pour beaucoup de Français, comme pour beaucoup évidemment de la population internationale, cette crise avait un impact. Oui, c'est une réalité. Le Téléthon a traversé ces crises avec une fidélité, avec un engagement, avec une fierté des donateurs assez exceptionnelle. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. La première raison, c'est que je pense que tout à chacun, et tous ceux qui m'entendent, je pense, le partagent, tout le monde a compris que derrière le Téléthon, c'est le combat des familles. Je suis présidente de la FM Téléthon, mais je suis d'abord avant tout une maman. J'avais un fils unique qui est partie d'une de ces terribles maladies, et tous mes administrateurs et tous les adhérents de l'association, ce sont des gens ordinaires qui tous ensemble, grâce aux donateurs, grâce aux bénévoles, font des choses extraordinaires parce que ce sont toutes des familles. Donc ça, c'est un élément. Je pense que le deuxième élément, c'est que tout le monde a compris que avec le Téléthon, c'est une médecine nouvelle, c'est une recherche nouvelle pour lutter contre des maladies rares, qui maladies rares sont déjà très très nombreuses et concernent énormément d'habitants de par le monde, mais en plus il y a des passerelles dans cette innovation thérapeutique entre maladies rares et maladies fréquentes. Et puis on a des résultats, c'est-à-dire être une organisation qui est à l'origine de médicaments qui sauvent la vie, de médicaments innovants qui sauvent la vie d'enfants, qui sauvent la vie d'adultes pour des maladies rares et qui servent aux maladies fréquentes. Là, je pense que c'est aussi un élément qui fait que toute la population a toujours été, la population française et même au-delà, a toujours été au rendez-vous du Téléthon parce qu'on est quelque part un phare, un repère. On tient nos promesses. Je crois que c'est ça aussi qu'il est important de souligner. Promesses tenues. On est une association de malades et de parents de malades. On a fait la promesse qu'on soutiendrait la recherche dans le but de l'avènement de thérapeutiques efficaces. On tient nos promesses. Et donc, tous les ans, les donateurs ont été au rendez-vous. Cette année, le contexte économique est difficile. Et peut-être que ceux qui donnaient hier 20, 30 euros ne pourront donner que 10, 15. Il faut qu'ils donnent parce que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Ils ont toujours été à nos côtés, même s'ils peuvent l'être de façon moindre en termes d'engagement financier, en termes d'engagement bénévole. On a besoin qu'ils soient le plus nombreux possible à nos côtés.
Laurence Thiénot-Herman, présidente de l'AMF Téléthon. Cette édition est terminée. Retrouvez-nous sur radioorient.com, Facebook, Twitter et Instagram. Merci d'être fidèle à Radio Orient.